Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Arnaud Ducré pour son spectacle « Arnaud Ducré et ses amis vous font plaisir » sur C8.
J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors voilà, on se retrouve, je vous l'ai dit juste avant les informations, c'est Arnaud Ducré qui est avec nous pendant une heure. On se connaît pas, hein ?
Non, moi, je vous connais, moi, vous.
Moi aussi, je vous connais.
Je vous ai beaucoup regardé quand j'étais un peu plus jeune, pardonnez-moi.
Non, mais je le prends bien, hein. Je
le prends bien. Je vous le dis tout le temps, ça va vous énerver, ça.
Non, je suis encore là, moi. Donc, ouais.
Vous êtes très, très bien, vous portez très bien, d'ailleurs, vous êtes très beau.
Bon, dites-moi, Arnaud Ducré, là, on est le dernier samedi du mois de janvier. Pendant une heure, on va essayer de mieux vous connaître. En tout cas, moi, je vais partir à la rencontre de ce type que je trouve très sympathique, mais que je ne connais pas vraiment. Et quand je regarde un peu son parcours, je me dis que vous n'êtes que sur la rampe de lancement. J'ai un peu l'impression que ça va aller très haut.
Non, mais franchement... J'ai le vertige, faites gaffe.
Non, mais franchement, parce que je me dis que tout ça est construit, tout ça n'est pas là par hasard. Je veux dire qu'on sent qu'il y a du boulot derrière et que tout ça, que ce soit au cinéma, que ce soit au théâtre, que ce soit dans les one man, que ce soit à la télévision, il y a eu comme ça des petites pierres comme ça qui pour monter le mur. Est-ce que c'est une bonne impression ?
C'est une très bonne impression parce que c'est comme ça que je vois le métier. Après, bon, chacun son parcours. Il y a des gens qui ont des départs fulgurants. Voilà, mais moi j'ai toujours envoyé des petites pierres à l'édifice. Alors ça a été plein de petits programmes que j'ai fait. Voilà, j'ai toujours travaillé. Ça monte tout doucement. Effectivement, maintenant depuis ce serait mentir que depuis 2 ans, effectivement, je sens vraiment une énorme poussée. Mais c'est très agréable parce que comme je l'ai voulu depuis longtemps et que j'ai mis du temps à ce que ça arrive, mais c'est très bien comme ça, je me plains pas du tout. Hein. Au moins, voilà, on savoure chaque instant et on se pose et on fait attention que ça, comme ça va pas trop vite, au moins on se dit tiens, ça je veux pas faire, ça je veux pas, voilà quoi.
Le principe de l'émission, c'est très simple, il y a des mots qui sont sur une tablette. À partir de ces mots, moi je dois faire des questions, c'est mon boulot.
D'accord.
Et à partir de ces questions, vous devez faire vos réponses, ça c'est votre job. Okay. Alors, on y va.
Alors, c'est parti. J'ai été Jacques Chirac.
Vous avez été Jacques Chirac. C'est vrai que vous avez été Jacques Chirac.
Oui, j'étais Jacques Chirac. Oui, pour Laurent Herbier, le réalisateur, avec Pierre Vernier qui faisait De Gaulle. Et je me retrouvais face à Pierre Vernier et Didier Bezaz, qui sont deux grands comédiens. Et moi, j'étais le plus jeune sur le plateau d'ailleurs. Et je crois que Chirac était le plus jeune à l'époque, en tout cas, à travailler pour le gouvernement. Voilà. Donc, ça a été une expérience incroyable. Je me souviens parce que c'est par le biais de Bruno Solo en fait. Bruno Solo avec qui je faisais Caméra Café 2, me dit comme ça, tiens, il y a Laurent Herbier qui cherche un réalisateur, qui cherche un mec pour faire Jacques Chirac, il ne trouve pas. Et donc je suis allé sur le casting, je me souviens toujours de ça, c'était Place des Abbesses, à Paris, à côté de Pigalle, et pour l'impressionner, je suis arrivé en costume, et je m'étais plaqué les cheveux en arrière, et je suis allé voir, parce que j'avais pas de lunettes, donc je suis allé voir un opticien qui m'a donné des lunettes, je lui ai dit, voilà, donnez-moi une paire de lunettes que vous avez là, sans correction. Je voulais traverser la place des Abbesses pour que le réalisateur qui était assis sur la terrasse que j'avais repéré avant me voit arriver de loin en Chirac avec les cheveux en arrière plaqués. Et quand il m'a vu, j'ai senti dans son regard qu'il a, il a fait oh, et
j'ai mon Chirac.
Voilà. Et en fait, il m'a avoué après, une fois avoir tourné le film, il m'a dit tu sais Arnaud, quand je t'ai vu, j'ai dit putain, c'est lui, c'est Chirac. Donc voilà, je voulais l'impressionner avec ça, quoi.
Est-ce que vous vous intéressez à la politique, vous?
Non, enfin, je commence à m'y intéresser. Enfin, vous savez, j'ai 38 ans. Ma mère s'y intéressait énormément. J'avais beaucoup de débats à la maison, trop de débats qui finissait en engueulade, et ça m'a très vite fatigué. Et donc, je me suis pas trop intéressé à ça. Maintenant, oui, effectivement, là, actuellement, puis j'ai un fils. Alors, je crois que c'est ce qui me donne envie, me motive, on va dire, pour me préoccuper de la politique et essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, ou en tout cas, de lire entre les lignes de ce qu'ils essayent de nous dire.
Quand le programme court que vous avez à la télévision fait plus que les émissions politiques, ça vous inspire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le divertissement, enfin le côté qui accompagne les gens au quotidien est plus important que les grands discours politiques, ça. C'est rassurant ou pas?
Je sais pas si c'est rassurant. En tout cas, je pense que on est là pour divertir. Ça, c'est moi, je le vois comme ça, mon métier d'ailleurs. C'est le mot que vous avez donné là, divertissement. C'est comme ça que je vois mon métier. Moi, je suis là pour divertir les gens. En tout cas, pour le moment, c'est comme ça que je le vois. C'est qu'après, je me poserai d'autres questions. Mais je sais pas. Effectivement, de toute façon, il y a de plus en plus de flux aussi d'émissions politiques. Énormément. Ils sont énormément médiatisés. Et je pense qu'il y a un gavage et que après le divertissement a toujours été, les gens ont toujours eu besoin de se divertir et je crois que ça existe et ça existera encore très longtemps quoi.
Politique, mode d'emploi, ce serait tenir vos promesses.
Ah bah ouais.
Ne nous racontez pas que des histoires.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Je sais pas s'il y a politique. Est-ce que on dit parents mode d'emploi? Est-ce qu'il y a la politique mode d'emploi? Je sais pas s'ils l'ont, mais en tout cas, ouais. Où effectivement, qu'ils tiennent leurs promesses, ce serait déjà pas mal. Effectivement.
Pour parler télévision, là, ça va être retransmis par C8. On parle des dernières de Arnaud Ducret et ses amis vous font plaisir, en direct depuis le Grand Rex. Ce sera donc la semaine prochaine. Il y a, me dit-on, mais est-ce que c'est vrai, Didier Bourdon,
oui.
Pascal Légitimus,
oui.
Alix Poisson, votre
oui.
partenaire,
oui.
évidemment, Lisa dans Paramount d'Emploi,
oui.
Pef, Anthony Cavana,
oui.
Et beaucoup d'autres invités surprises.
D'ailleurs, Bruno Solo, Matt Pokora.
Il va y avoir quoi de spécial? C'est tout ce que vous avez fait, mais... Une dernière fois.
Voilà, c'est ça. J'ai pas du tout envie d'avoir, si vous voulez, ce que beaucoup font. C'est pas ça, mais j'en ai marre des. Ah, t'étais dans les loges. Ah, bah dis donc, je savais pas. Ah, bah, ça me fait plaisir. Ah, bah mec, dis donc, t'es là. Ah, bah il arrive. Il est. Oh putain, quelle surprise, incroyable. Alors que les mecs, ils ont pris un café avant. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'est. Puis surtout, c'était. Au moins, ça me permettait de travailler, de chercher. C'est justement de se creuser un peu la tête. C'est que moi, ils vont être mélangés dans mes sketchs. C'est-à-dire que il y aura toujours. Ils seront là, mais jamais par hasard. C'est-à-dire que Didier Bourdon, par exemple, dans mon spectacle, sans dévoiler trop de choses, mais je joue le rôle d'un médecin, mais il se peut que ce médecin, c'est un moment que je joue moi, se retourne et que derrière il y a un autre médecin, que ce soit Didier Bourdon par exemple, que Alix Poisson va intervenir pour se plaindre de certaines choses sur scène parce que voilà, elle a peut-être pas été invitée justement, mais elle, voilà, je fais aussi un sketch sur Dirty Dancing, pourquoi pas un petit Dirty Dancing avec Alix Poisson, voilà, je veux vraiment les intégrer dans le spectacle et qu'ils aient une raison d'être et d'être parmi nous au Grand Rex. Il y aura de la danse, je fais beaucoup aussi de chant, moi je chante, je danse, je fais du beatbox. Des bruitages avec ma bouche. Matt Pokora viendra peut-être faire un petit kiff avec moi sur scène, quoi. Voilà, quoi.
Vous avez choisi, parce que c'est vous qui avez choisi la programmation musicale de l'émission.
Oui.
Le premier, ça vous ressemble pas, ça.
Dites-moi.
Kid United,
ouais, mais alors, en fait, je l'ai pris parce que j'ai mon
Allez,
fils.
Dites-nous tout,
oui.
Ou ça m'inquiète. Ou là, ouais, ça m'inquiète.
Le mec, il est chelou, quoi. C'est bizarre, mais, je peux pas m'approcher à moins de 500 mètres d'une crèche. En fait, non, c'est surtout que Kid United, j'ai mon gamin qui adore. Alors, voilà, mon fils adore.
Bon,
c'est, ces gamins sont mignons comme tout, ils chantent très très bien. On revient un peu, c'était comment, vous avez connu ça, monsieur Sabatier, vous les, c'était quoi, les
Poppies,
ouais, voilà.
Ou alors les chanteurs à la croix.
Ouais,
voilà. Je sais pas si je le prends bien.
si, prenez-le bien. Parce que, si. Mais voilà, moi j'ai pas connu ça. Mais je me suis dit, tiens, les Kids United, ça va me rappeler. Voilà.
D'accord. Bon, allez, on les écoute. Vous êtes sur MFM Radio, c'est la première radio de la chanson française.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire sur MFM Radio.
Allez, un autre mot avec notre invité. Après, j'ai été Jacques Chirac. On arrive au Morning Live.
Oui.
Vous avez fait le Morning Live. Vous avez fait de la télé, Arnaud.
Oui, j'ai fait de la. J'ai commencé comme ça. C'était. Alors, ça s'appelait le Morning Café d'ailleurs. C'était pas le Morning Live de Michael Youn. C'était le Morning Café. On succédait. On essayait de faire aussi bien que lui, ce qui était très difficile.
Ouais.
Mais en tout cas, ce qui m'a permis à moi de créer des personnages que j'ai même d'ailleurs encore sur scène, d'apprendre à écrire très vite dans l'urgence. Voilà, merci. D'être dans l'urgence et de toujours aller au but très vite. Et donc, ça m'a appris énormément. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Ça a été ma première expérience. Alors, je me suis dit, oh, ça va changer ma vie. Les gens, ils vont me reconnaître dans la rue et tout. Que dalle. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parlait de Pierre l'édifice tout à l'heure. Et que ça en fait partie parce que, après, j'ai Gérard Louvain qui m'a vu à la télé un matin de bonne heure voir se faire des sketchs et qui m'a fait rencontrer Pierre Palmade avec qui j'ai travaillé un peu de temps sur une émission et tout. Donc, c'était pareil. Voilà, on parle de petite Pierre l'édifice qui faisait que ça montait.
Et maintenant, quand vous sortez dans la rue, les gens vous reconnaissent, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Ça a changé que ouais, des fois j'ai besoin de me faire discret quand j'ai envie de me faire discret, ça c'est sûr.
Ouais.
Mais en revanche, vous connaissez ça aussi, mais c'est vrai que il y a des gens qui des fois voilà, on leur fait comprendre que c'est pas le moment, mais ils le prennent quand même. Et après, moi je le dis encore, mais c'est vrai, j'ai aucun problème à ce qu'on vient de me taper sur l'épaule et qu'on me dise, oh, Arnaud, je prends énormément de plaisir à voir les gens. L'autre fois, pour vous dire, c'est la semaine dernière, j'étais en tournée avec mon spectacle et je marche et j'étais en train d'écouter de la musique et je vois une demoiselle et c'est pas parce que c'est une demoiselle, ça aurait été un monsieur, c'était la même. Hein. Elle me regarde et je la vois sourire, mais donc se rappeler un truc qui lui a fait plaisir ou qui l'a distrait, parce qu'on parlait de distraction tout à l'heure. Donc en me voyant, elle a souri et ça m'a vachement touché. Je me suis dit, voilà, c'est ça que j'ai envie, moi, c'est ça que je veux. Que les gens, peut-être en me voyant, ils se disent, ah, c'est Arnaud Ducret, ah, il est cool, lui, il me fait rire. Voilà, c'est ça qui me plaît.
Est-ce que l'homme que j'ai en face de moi a toujours été comme ça? Est-ce que vous avez toujours été sympa quand vous étiez à l'école, quand vous étiez... Mais est-ce que je veux dire que, est-ce qu'il y a un moment donné, parce que vous êtes aussi professionnel, on le fait parce qu'on fait son job aussi,
son job, oui.
Ou est-ce que c'est votre nature? Et en réalité, votre boulot est l'expression de ce que vous êtes.
Oui, en tout cas, il faudra le demander aux gens avec qui je travaille, mais moi, ce qui est sûr en tout cas, c'est que je ne travaille pas dans la mauvaise humeur, ça c'est sûr. J'aime fédérer les gens et je l'ai, je crois que c'est Isabelle Nanty qui m'a dit, de toute façon, être méchant, ou Josiane Balasco, je ne sais plus, mais qui m'a dit être méchant dans ce métier, c'est plus à la mode. Et je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que moi je le vois même d'ailleurs, les gens de ma génération, on est tous heureux, on est là où on a envie.
envie d'être et on est heureux d'être là où on est. Et donc moi je suis très heureux de faire ce métier et j'ai envie de le vivre. Alors déjà je suis quelqu'un de très joyeux, de positif dans la vie et dans le métier, voilà, moi je trouve que c'est suffisamment difficile de faire des choses, de faire des films, tout ça, qu'il faut éviter de se prendre la tête et d'avancer. Ouais, c'est peut-être. Après, il y en a qui jouent qui font comme vous dites, le job, c'est-à-dire que
des faux gentils.
Voilà, des faux gentils qui dans la vie tu fais ah ouais mon pote, ok d'accord. Comment tu fais pour fédérer autant de gens, être aussi con? Mais bon, après voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Hein.
Un autre mot. Rouen.
Rouen.
C'est là où vous êtes né.
Voilà, je suis né ici, moi. Je suis né à Rouen. Je suis né au CHU de Rouen.
Vous y pensez souvent?
J'y pense souvent. Je suis pas très loin. On n'est pas loin, Paris.
Mais je veux dire, est-ce que vous y allez souvent? Est-ce que cette enfance a été marquante pour vous?
Ah, elle était très marquante. Et je me rends compte d'ailleurs que maintenant, là où je suis, c'est vrai qu'il y a plein de petites choses qui ont fait que je suis là maintenant. C'est-à-dire que, alors déjà, j'ai commencé par la comédie musicale à Rouen. Parce que ma sœur chantait dans une troupe de comédie musicale. Et donc, j'ai intégré cette troupe pour éviter de traîner dans la rue. Parce que c'est ce que ma sœur voulait au début. Elle m'a dit, ah bah tiens, tu vas venir avec nous. Et en fait, moi, j'aimais déjà la scène. Et quand je suis monté sur scène, je me suis dit, wow. C'est ça que je veux faire dans ma vie, quoi.
À quel âge?
Ah, j'étais très jeune, mais même avant de faire la comédie musicale, je faisais à l'école du théâtre, donc j'avais 11 ans, quoi. C'est-à-dire que j'ai fait le spectacle de fin d'année à l'école, quand j'étais à l'école de théâtre. Et c'est-à-dire que là, j'ai vu dans le regard des élèves, parce que j'étais très mauvais élève, mais j'ai vu dans le regard des profs, ils m'ont regardé en se disant, tiens, il est drôle ce mec. Donc tout d'un coup j'ai vu dans le regard des profs de l'affection et tout. Je me suis dit et ça m'a donné des ailes. Je me suis dit mais moi ça j'ai senti un regard différent. Et puis il y avait une fille que j'adorais qui était une jolie métisse qui était dans l'école. Elle ne me parlait jamais et après avoir fait mon sketch sur scène, elle est venue me voir. Après elle m'a dit tu fais quoi cet été? Je me suis dit putain moi je veux faire ce métier. C'est ça que je veux faire. Donc voilà quoi. Mais Rouen c'est ma famille habite là-bas. Je me ressource là-bas. Je peux y rester voilà 2-3 jours parce qu'après c'est un peu long pour moi. C'est un peu petit maintenant Rouen pour moi. Ouais. Mais on a une très belle ville et j'adore retourner là-bas parce que je me vois enfant me balader et déjà rêver d'être sur Paris. Quoi.
Quand vous aviez 14 ans, vous étiez à Rouen et quand Eddie Mitchell a 14 ans, il fait quoi?
Il fait écrit, il chante aimant. Je viens toujours d'avoir mes 14 ans.
On va donc l'écouter.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire, avec Arnaud Ducré pour son spectacle « Arnaud Ducré et ses amis vous font plaisir » sur C8.
Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, à part faire le métier que vous faites? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font plaisir? Est-ce qu'il y a des gens, quand vous les voyez, vous avez plaisir à les voir?
Je parle pas du métier, hein. En général. Ah oui, oui. Ma famille, par exemple, j'adore me retrouver avec ma maman. J'adore me retrouver avec ma mère, aller manger dans le restaurant de mon beau-père qui est sur Rouen, là, il y a un restaurant. C'est des moments que j'aime, ça, voilà. C'est pas très compliqué. Me retrouver à table avec mes amis, par exemple, autour d'une table, moi j'aime beaucoup. Hein, je mange.
Vous avez beaucoup changé?
Si j'ai beaucoup changé,
Est-ce que votre mère, aujourd'hui, quand elle a son fils, elle a le même que celui dont nous parlions tout à l'heure quand il avait 14 ans?
Ah, je crois, ouais. Je crois qu'elle me dit. Alors, ma mère, ce qui lui fait plaisir, c'est quand les gens du métier, justement, lui disent qu'est-ce qu'il est gentil, votre fils. Ma mère, elle me dit, ah, bah oui, il a toujours été.
Quel est son prénom?
Marie-Bonne.
Marie-Bonne. Qu'est-ce qu'il est gentil?
Ouais, c'est ça. Je vous assure. Ouais, ouais, non, mais elle me dit, voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, souvent. Mais ma mère, elle a toujours été comme ça. D'ailleurs, c'était un gimmick, souvent, je me moquais d'elle parce qu'on parlait de gens. Des fois, on avait les mecs qu'on croisait dans la rue qui était un peu, ou qu'on connaissait, qui était un peu simplé, on va dire, et elle me disait, mais oui, mais il est gentil quand même.
c'est vraiment. Mais ça compte, ça.
Mais oui, ça compte. Gentil. Bien sûr. Et justement, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui pensent que c'est une faiblesse d'être gentil, mais c'est faux, c'est pas une faiblesse. Les gens. Non, moi je vois, et pour parler du métier, parce qu'on est là aussi un peu pour ça, mais je vois, moi, les gens gentils dans le métier, t'as envie de travailler avec eux. Ouais. T'as envie, voilà, ça change tout, quoi. Voilà, moi, je veux de mal à personne. C'est le pire qui puisse exister, de vouloir du mal à quelqu'un ou la mort de quelqu'un. Moi, je veux pas ça. Moi, je veux juste avancer, qu'on me laisse tranquille. Et en tout cas, me retrouver autour d'une table avec mes amis, ma famille, et rire, et boire du bon vin, boire avec modération, bien sûr. Je fais votre job, vous avez vu. Et voilà, mais c'est ça qui me plaît. C'est aussi simple que ça, quoi.
Un autre mot. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire? Qu'est-ce qui vous fait pas rire, au contraire? Ce sont des choses que vous repoussez, quoi.
Y a la violence, la haine, l'aigreur, je déteste ça.
Il y a des humoristes qui vous font pas rire?
Sans
donner de nom.
Non, je veux pas donner de nom, mais même, il y en a qui me font pas rire. De toute façon, comme moi, je dois en faire rire aussi. Après, c'est selon aussi nos
affinités.
Nos affinités, oui, effectivement, voilà. Bon, moi, après, en revanche, je peux voir quelqu'un qui ne me fait pas rire, mais comprendre pourquoi les gens rigolent et me dire d'accord, je vois pourquoi, il a son public, je comprends. tant mieux pour eux. Mais par contre, je n'aime pas dans les humoristes les gens qui ils font beaucoup ça dans le stand-up. Peut-être un peu moins maintenant, mais ça a été au tout début du stand-up, ils faisaient ça, c'est-à-dire de prendre quelqu'un dans le public et de l'avoiner, quoi. C'est-à-dire que t'as un groupe de filles, ils vont prendre une fille et ils vont l'avoiner, parce que pour moi, c'est parce qu'ils ont plus rien d'autre à dire. Donc ils prennent la fille, ils l'avoinent. Alors moi, dans mon spectacle, par exemple, je déteste ça. Et si je dois plaisanter sur quelqu'un, c'est très bref. Et si je sens, même moi, alors que pas du tout la personne est vexée ou quoi que ce soit, j'aime toujours, voilà, arrondir les angles en disant, voilà, c'est toujours positif, quoi.
Un autre mot. Arnaud Ducret est l'invité de MFM Radio pendant une heure. Fidélité.
Fidélité.
À quoi êtes-vous le plus fidèle? Vous êtes marié?
Non, je suis pas marié. Non, je suis pas marié. Alors, elle arrête pas de me dire, dis non, quand est-ce que je me fais, quand est-ce qu'on m'appelle lui, madame?
Mais vous avez un enfant?
Oui, on a un enfant, oui, voilà. bien sûr.
Qui a quel âge?
4 ans.
4 ans.
Voilà, voilà.
Pourquoi vous ne voulez pas vous marier?
Parce que j'ai pas trouvé le moment pour le faire. Et puis, c'est parce que, voilà, pour moi, l'enfant était plus important que le mariage pour le moment. Peut-être que je changerai d'avis.
La fidélité est-elle possible?
Pardon?
La fidélité est-elle possible?
Oui, bien sûr, la fidélité est possible. Je pense que même avec le temps, elle doit se renforcer si on reste avec la personne. Voilà, après, moi, c'est vrai que je viens de parents divorcés et j'ai eu une enfance où j'ai connu beaucoup de belles-mères. Beaucoup, voilà. Donc, j'ai une vision différente de peut-être de la vie de couple. Le mariage n'est pas pour moi une fin en soi, quoi. C'est pas un truc. Mmh. Par exemple, pour vous dire ce qui me ferait plaisir, si je me marie, c'est pas du tout l'église, parce que je n'ai aucune religion. Ça ne m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de ce mariage est un prétexte pour avoir tous mes amis autour de moi et qu'on fasse une belle fête pour symboliser ça. Voilà, pour représenter ça. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai je pense avoir une grande fidélité. Je crois en ça aux gens avec qui je travaille. Et je suis très fidèle aux gens avec qui je travaille, si tout se passe bien évidemment, mais je crois en ça, je pense que c'est quand les gens te connaissent le mieux, que tu travailles le mieux, et surtout quand ils ne te pavanent pas dans ton...
Qui vous connaît le mieux aujourd'hui, Arnaud Ducret, à part vous?
Il y a ma femme qui me connaît pas mal, je pense.
Vous l'avez rencontrée il y a combien de temps?
Il y a 7 ans. 7 ans, ouais, 7 ans maintenant.
Vous avez immédiatement su que c'était elle?
En fait, je sais pas si vous connaissez peut-être pas l'histoire, mais parce qu'on a été repris dans les médias, mais je chantais je faisais les chœurs de Nana Mouskouri, pour la Star Academy. Et en sortant de scène, j'arrive.
Ah bon, c'est donc Nana Mouskouri.
le mec a rien compris. Mon Dieu, il a couché avec Nana Mouskouri. On est sortis deux ensemble, les lunettes ont... À un moment, les lunettes ont pété, on a rien pu faire.
Non, c'était pas ça. C'était pour rire.
C'était pour rire. Non. Si vous voulez, c'est surtout que je chantais pour les chœurs de Nana Mouskouri. Je sors de scène et je vois dans les backstage de la Star Academy à l'époque une demoiselle très jolie à côté de moi, assise à côté de moi, très très belle avec des yeux verts. Et donc je me dis, je rentre, je me rappelle, en colocation avec mes copains, je dis les gars, j'ai vu une fille, waouh, elle est magnifique avec des yeux verts. Et 10 ans plus tard, je me retrouve sur une comédie musicale qui s'appelle Spamelot des Monty Python avec Pierre-François Martin Laval, PEF. Et il me dit, il faut qu'on choisisse les danseuses. Et il me dit, viens voir. Et je tombe sur la fille que j'ai vue 10 ans avant à la Starac.
Belle histoire.
Et donc on se retrouve sur la comédie musicale ensemble, on se découvre et on a eu un enfant ensemble et on vit ensemble.
Belle histoire.
Bah ouais. Ah, voilà.
C'est quoi son prénom?
Maureen.
Ouais. Beau prénom, belle histoire.
Beau prénom, joli.
Vous devriez vous marier.
Non, dites pas ça, écoutez l'émission. Je te l'avais dit, monsieur Sabatier, il l'a dit. Hein. Qu'est-ce qu'il est gentil, monsieur Sabatier.
Allez, un autre mot. Prof, on va pas parler du film, on va parler de vous à l'école.
Oui.
Vous étiez comment?
J'étais catastrophique, j'étais pas méchant. Justement, on revient un peu au côté gentil. D'ailleurs, souvent les profs le disaient, j'étais pas quelqu'un de méchant, mais j'adorais faire rire. Et c'était catastrophique pour les profs parce que j'adorais faire des bruitages, donc j'avais un prof qui je faisais tout le temps des bruitages dès qu'il s'asseyait, je faisais des bruits et tout, donc à un moment il me regardait, il me disait ça suffit Ducret maintenant. Ouais. Mais j'ai eu la chance, l'éducation nationale ne te donne pas comme critère, tu peux être comédien ou faire de la radio par exemple, ils ne savent pas ça te donner cette branche, c'est vrai, hein. En revanche, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui s'appelait Madame Couillard. Qui était ma prof de français. Madame Couillard, qui était une dame d'une douceur incroyable, et Madame Vadeblay, qui était l'assistante du directeur. Et un jour, elle m'a dit, Arnaud, écoute, ça suffit maintenant, il faut que tu fasses du théâtre, arrête de faire le guignol devant tes copains, viens faire du théâtre. Et j'ai fait du théâtre, et ça a été ma première expérience sur scène, je vous en parlais tout à l'heure, et c'est incroyable, parce que voilà, c'est que j'ai découvert ça, et elle est venue me voir à Paris après Madame Couillard, des années plus tard, elle est venue me voir, et elle est décédée depuis, elle est décédée d'un cancer. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, j'étais très ému à son enterrement, et d'ailleurs le curé a dit la plus grande fierté de Madame Couillard, c'est Arnaud Ducret. Et j'étais ému parce que...
Ah ouais, c'est émouvant.
C'était émouvant parce que j'étais pas un bon élève, mais c'est aussi ça l'éducation nationale, c'est ça aussi les profs, il faut le dire, c'est que tout d'un coup, vous avez peut-être connu ça aussi,
ouais.
Nous, j'ai eu plein de copains qui me disent « Oh, j'avais une prof, elle m'a fait découvrir un livre, elle m'a fait... » Voilà, ouais. Moi c'est ça, et grâce à elle... J'ai pu, et grâce à ces deux dames, Madame Vadeblay et Madame Couillard, j'ai pu matérialiser ce métier de comédien et me dire, waouh, c'est ça que je veux faire.
Alors que vous avez été un prof dans le rôle très, ouais. très différent, mais aussi déconneur qu'un enfant.
Aussi déconneur qu'un enfant, mais c'est ce que les enfants veulent. Quand ils voient les profs aussi déconneurs qu'eux, ils disent « Ouais, c'est ça, il nous faut un prof comme ça ».
Aznavour, Charles Aznavour, un grand monsieur de la chanson française sur oui. MFM Radio, dit qu'il fait reculer l'horaire de ses spectacles pour regarder Parole Mode d'Emploi.
Bah c'est le mec qui fait la lumière sur mon spectacle me dit « Ah mais c'est toi ce programme-là !» C'est qu'en fait, il y a le régisseur général de monsieur Aznavour qui a dit « Bon, avant c'était les infos, il regardait les infos, il allait sur scène, maintenant il y a les infos, il faut attendre que Parole Mode d'Emploi passe et après il va sur scène. » Il m'a dit « C'est ta faute si on commence plus tard. »
Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Midi 13h, samedi, Sabatier. Patrick Sabatier et sur MFM Radio. Samedi Sabatier, l'interview.
Surtout Arnaud Ducret avec ses confidences et ses amis. Je rappelle que il y a le spectacle depuis le Grand Rex. Ce sera vendredi 3 février.
Alors jeudi 2, vendredi 3, samedi 4.
Voilà, là, et en plus ce sera sur C8.
Hein, en direct le vendredi soir.
Le vendredi. Ouais. Et c'est au Grand Rex. Nous sommes samedi, profitez-en, dépêchez-vous, il y a encore quelques places. Alors, on y va. Oui. Un autre mot, Arnaud. Maureen et Oscar. Bon, alors là, ce sont les enfants, on en a un peu parlé. Ouais. Mon but, c'est quoi votre but ultime ?
Je ne sais pas si j'ai un but ultime, mais j'ai un but ultime qui est le Grand Rex, par exemple. Ouais. C'est le mais, but ultime de ce moment.
Est-ce que vous avez une stratégie de carrière en se disant, tiens, voilà, j'adorerais faire ça ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens qui m'inspirent sont des gens comme Bourville, Jean Rochefort, on va dire en comédie, Monsieur Depardieu.
Donc des longues carrières, mais pluridisciplinaires. Hein. Théâtre, comédie musicale, cinéma.
Moi, je veux tout faire. J'ai eu la chance de tourner qu'André Dussolier dans un film qui s'appelait Adopte un veuf. Et quand je vois André Dussolier, ça m'inspire. C'est pas mon but ultime, mais je me dis, voilà, ce monsieur, c'est ça que je veux être, moi. Et André, par exemple, André, quand on se balade avec lui, André, et quand les gens croisent André, les gens sourient. Et les gens assimilent André à des bons moments, des films formidables qu'il a pu faire. Il est respectable. Un jour, quand j'étais gamin, je disais, je me rappelle, j'avais dit un jour à une demoiselle, je me souviens toujours de cette phrase, j'avais dit, tu verras un jour, moi, je serai connu. Je disais à tout gamin, je disais, je sais pas, j'étais à l'école, je disais, tu verras un jour, moi, je serai connu. Et elle me dit, mais tu veux être connu ? Je dis, mais alors, parce que j'arrivais pas à mettre un mot là-dessus. Mais en fait, elle me dit, mais tu veux être connu, mais il faut être reconnu aussi. Et elle me dit, reconnu par ton métier, reconnu par les gens, reconnu par ton art. Et c'est là, j'ai fait, mais oui, c'est ça. Je vais être connu et reconnu. Et c'est ça, c'est que les gens, par exemple, André est reconnu aussi par son art, quoi. C'est-à-dire que les gens aiment ce monsieur parce qu'il a fait des choses formidables en tant que comédien. Et voilà. Et c'est ça qui m'inspire. C'est pas, je me dis que quand je vois moi encore maintenant, j'ai sur mon téléphone par exemple portable, j'ai la Grande Vadrouille. Et quand je regarde la Grande Vadrouille, je trouve ça tellement formidable et je me dis, j'ai 38 ans, Bourville, je sais pas quel âge il aurait maintenant, mais c'était pas ma génération réellement quoi. Mais c'est ça, je me dis voilà, c'est ça que je veux faire moi. Je veux La Vérité si je mens, José Garcia, c'est ça que je veux. Benoît Poelvoorde, c'est ça que je veux. Je veux que les gens, voilà. J'espère être respecté aussi par mon art et que les gens me trouvent bon comédien.
Est-ce que Parole Mode d'Emploi aura une fin?
Ah certainement, oui, il y a un moment, de toute façon on va pas, oui, c'est-à-dire que les enfants, bon, ils vont avoir 32 ans. Donc...
Non, parce que je pense à Jean Dujardin et Alexandre Lamy, et vous êtes un peu dans le même, dans la même histoire, quoi, dans la même trajectoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, quand on est capable de tenir autant de téléspectateurs chaque soir avec des petites scénettes quand même,
bien sûr.
Sont pas si faciles à jouer que ça,
bien sûr.
Justement, ce sont des petites scénettes où vraiment il y a beaucoup d'investissement de la part du comédien, on est capable après de faire des choses encore plus complètes,
déjà
que vous avez commencé, mais que vous allez continuer.
Non, mais en fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, c'est que Alexandre Lamy et Jean ont essuyé les plâtres, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de problème. Je veux dire,
Il y a des passerelles.
Il y a des passerelles. J'ai croisé M. Cluzet qui m'a dit c'est très bien ce que vous faites le soir. Et les comédiens, encore, il n'y avait pas de problème avec les comédiens, mais c'était les producteurs. Les producteurs, ils disaient ouais, mais attends, la télé, c'est fini ça maintenant. D'ailleurs, les gens du cinéma reviennent sur des fictions. Alexandra Lamy, on a fait une sur TF1 et tout. Voilà, je viens d'apprendre qu'Alexandra, pour un film qu'on a fait ensemble, qui est L'embarras du choix, elle vient d'avoir le prix d'interprétation.
Un film d'Éric Lavenne et qui sortira au mois de mars le 15.
Voilà, elle a eu le prix d'interprétation pour la comédie. Ça, c'est formidable parce que Alexandra Lamy est une grande comédienne et je suis content qu'elle ait eu ce prix. Mais voilà, ils ont essuyé un peu les plâtres et maintenant nous on est là et j'ai la chance d'avoir énormément de propositions cinématographiques. Je suis très fier de ça, je suis très heureux, je suis comblé. Il y a des choix à faire, voilà. Mais Parole Mode d'Emploi n'a pas du tout été un frein en tout cas à ça. Mais effectivement, on arrêtera un jour parce que de toute façon, il y a mangé. Le succès aussi, c'est que je vais plus avoir malheureusement le temps de pouvoir faire par Amazon.
Vous en avez fait combien déjà, vous le savez?
On est là sur la quatrième saison, je crois, cinquième saison.
Oui, ça fait quand même pas mal.
Ça fait trois ans de tournage, donc là.
Allez, un autre mot. Oui. Arnaud Ducret, l'invité de MFM Radio. Être un autre. Alors, être un autre, C'est votre métier, puisque être comédien, c'est être un autre. C'est votre métier parce que vous avez fait également du doublage.
Oui.
Donc, voilà. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez sortir de la comédie ? C'est-à-dire, est-ce qu'entre couper et ce que vous êtes dans la vie, c'est facile ? Ou quelquefois, est-ce qu'il y a des rôles qui sont lourds ?
Ah, bah, j'ai pas encore eu à avoir ce genre de rôle, je pense. Pas encore un rôle très lourd comme ça, comme vous dites, là, très dramatique peut-être, ou film d'auteur, tout ça, où on peut avoir des fois des rôles socialement lourds et tout. Non, moi, pour l'instant, en tout cas, ce que je vous dis, c'est que ce que vous voyez sur scène, ce que les gens voient sur scène quand je suis sur scène ou quand je suis dans les bêtisiers et tout, c'est ce que je suis dans la vie vraiment. C'est que j'ai, voilà, alors je suis comme tout le monde, hein, j'ai des moments de fatigue et tout, mais j'ai quand même 85% de très très bonne humeur et de beaucoup d'énergie et le reste où des fois je suis un peu fatigué. Mais voilà, la vie est courte, la vie est belle et donc je compte bien en profiter pendant que je suis là, quoi.
Oui, parce qu'après, ça sera autre chose.
On ne sait pas.
Est-ce que, alors, vous savez ou pas, vous ? Parce que je demande souvent si on sait. Beaucoup de gens ne le savent pas, vous. Est-ce que vous savez ce qui se passe après ?
Ce qui se passe après ? J'en sais rien.
Est-ce que vous en fichez ?
Je m'en fiche. De toute façon, à un moment, tu pars. C'est ça que les gens ont peur de ça, mais quand tu pars. C'est-à-dire que tu ne sais même pas que tu pars, en fait.
Ah oui, mais enfin, c'est inéluctable. Et en même temps, parce que notre vie, elle oublie.
Ouais.
Est-ce que vous avez eu. Je ne veux pas attrister l'émission, mais est-ce que vous avez côtoyé. La mort, est-ce qu'il y a des personnes ?
Oui, il y a pas longtemps, ma grand-mère, oui, ça a été, c'est la première fois d'ailleurs où j'étais confronté effectivement, ça c'est triste, hein, c'est là où tu dis, allez, c'est parti, on y va. Donc j'ai eu ça et j'ai eu mon mentor qui s'appelait Jean-Paul Goury, qui m'a appris la musique, qui m'a appris la scène, qui est décédé aussi très vite d'une leucémie. Ça a été un choc. Je me suis dit, d'ailleurs, quand je vais sur Rouen, une grande figure de Rouen, quand je vais sur Rouen, je me dis toujours des fois, tiens, je vais le croiser au coin de la rue, et ça m'attriste énormément, donc j'évite d'y penser. Mais voilà, c'est la vie, hein, et c'est marrant parce que ce qui est assez drôle, c'est que quand tu as un enfant, ça t'amène où tu te dis, ta vie va s'arrêter, mais en même temps, tu la vois, il t'amène ce réconfort où elle continue parce que tu te projettes en lui, donc tu te dis, c'est, tout va bien, il est là, il va prendre le relais. Donc ça,
j'ai fait mon travail.
Voilà, c'est ça, exactement, ouais.
C'est Renaud que vous avez choisi avec Mistral Gagnant. C'est une des plus belles chansons que je connaisse. Merci d'avoir choisi. On vous retrouve tout de suite après sur MFM Radio.
Samedi Sabatier, l'interview. Des mots pour le dire avec Arnaud Ducré pour son spectacle Arnaud Ducré et ses amis vous font plaisir sur C8.
Ce sera vendredi prochain, mais je le rappelle au Grand Rex, le 1er, le 2 et le 3 février.
Le 2, le 3 et le 4.
Le 2, le 3 et le 4. Le 2, le 3 et le 4.
Jeudi, vendredi, samedi.
Jeudi, vendredi, samedi. Donc, la semaine prochaine au Grand Rex. Allez, un autre mot, Arnaud Ducré, gospel.
Ah oui, gospel, oui.
Alors, vous en avez fait partie, du gospel.
Oui, j'ai chanté. Alors, il y a des très grands chanteurs de gospel. Hein. Je ne suis pas un grand chanteur de gospel, mais en tout cas, j'ai chanté dans les chœurs, voilà. Et j'ai fait beaucoup de mariages. Le samedi, je me rappelle, je chantais comme choriste. Voilà, et j'ai appris à harmoniser, j'ai appris à chanter. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont des connaisseurs de gospel, j'ai une grande passion pour Kirk Franklin, qui fait du modern spiritual, qui a sorti des albums, voilà, dernièrement, qui a modernisé totalement le gospel. Il avait même fait un album qui s'appelle Lean on Me, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui passait à la radio. Et je l'avais entendu sur cette radio-là. Donc je me suis dit, tiens, c'est incroyable quand même sur cette radio. Et il y avait Bono avec lui, il y avait plein de chanteurs qui chantaient avec lui.
Puisqu'on parle de chanter, de la scène, vous avez le track avant d'entrer en scène ?
Toujours, ouais, toujours.
Ça se traduit
toujours.
Comment ?
Ah bah ça se traduit par une sensation extraordinaire d'ailleurs, hein, qui est donc cette boule au ventre que j'aurai, que j'ai avec le Grand Rex d'ailleurs, que voilà, cette boule incroyable. Et je crois que c'est un shoot de, je sais pas comment vous dire, mais ça fait un mal de bide énorme, un tremblement, j'ai les mains qui tremblent, je ne sens plus mes jambes.
Ah oui, carrément.
Je ne sens plus mes jambes. Et puis j'arrive sur scène, ça doit faire je pense 1, 2, 3, 4, et c'est fini, et hop. Et on disparaît, quoi. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on se. C'est assez incroyable, mais c'est parce qu'on se met dans la peau de. On rentre dans la peau de ce personnage d'Arnaud Ducré sur scène. Et donc. De mes personnages. Donc en fait, je pense qu'on s'oublie un peu. Et donc, même quand t'es malade, des fois un peu. Vous devez connaître ça aussi quand tu fais une émission de télé, tu t'oublies un peu. Donc on est là pour le show. Il faut avancer, hein. Comme plein de métiers. Voilà. Donc quand tu dois le faire, tu le fais, quoi.
Allez, un autre mot, Arnaud Ducré, vous faites de la radio avec moi pour l'instant, et c'est votre interview. One Man Show, jamais 203. Ah oui, alors, être seul sur... Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour vous.
Merci.
Et pour tous ceux qui sont seuls sur scène, parce qu'il faut le faire quand même.
Ouais.
Faut le faire de se présenter devant 300, 400, 500, 1000, 2000 personnes, d'être seul sur la scène et de se dire, c'est moi qui vais gagner, parce que c'est quand même ça.
Ben, le truc, c'est que se pointer devant une scène où il y a 2000, 3000 personnes, c'est même c'est même pas là où c'est le pire. C'est quand on se retrouve dans les salles de 23, de 100 personnes, quand j'ai démarré le
ça
spectacle.
Ça m'est déjà arrivé.
Ça m'est déjà arrivé. J'ai démarré dans un théâtre de 23 places, moi. Voilà. Donc, autant vous dire qu'avec le physique que j'ai, t'as l'impression qu'il y a plus de monde sur scène que dans le public. Mais, si vous voulez, ouais, on démarre comme ça. Et là, j'ai jamais eu autant le trac. Après, quand tu commences à avoir des salles de 2000, c'est que ton public est à peu près, on va dire, jamais à 100%, mais conquis un peu. Donc ouais. Là, les gens
ils
viennent.
Ils viennent, donc ils vous aiment.
Voilà, ils viennent me voir. Donc, logiquement, ouais. Donc c'est plus la même. Mais c'est vrai qu'il y a plein de métiers difficiles. On va parler juste artistique, hein, attention. Artistiquement, il y a plein de choses d'art difficile. Mais c'est vrai que le one man show seul sur scène, c'est aussi jouissif que difficile, quoi. C'est-à-dire que quand le spectacle, les gens sont conquis, qu'il y a 2000 personnes qui hurlent, c'est une énergie incroyable. Et puis quand il y a 120 personnes avec 20 payants et qu'il y a un mec bourré, c'est une sensation incroyable.
Les applaudissements de fin de spectacle, ça crée quoi chez vous? C'est un soulagement, c'est merci, c'est... Je suis heureux, c'est quoi?
Ah bah je suis heureux, c'est les rires aussi, vous savez, quand les vagues, je le dis des fois, je dis oh putain je viens de prendre un mur de rire, c'est que des fois tu dis une vanne et t'entends vraiment, parce que moi j'ai fait en sorte que ça soit la masse qui rigole, c'est ce que j'aime, ouais. Des fois on a des petits rires à droite à gauche mais je veux que ça soit la masse, donc quand tout d'un coup tu dis un truc et t'entends bouah, tu prends vraiment un espèce de truc d'énergie comme ça. Et donc voilà, un mur de rire et d'énergie. Et après, quand les gens applaudissent à la fin, moi, ce que j'aime le plus, c'est quand je vois les gens, c'est un peu, comment dire, humblement, je dis ça, mais les yeux qui brillent, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils sont, positifs, contents, ils ont fait, waouh, c'est cool, on a passé un bon moment. Bon, voilà, là, ça me touche beaucoup, par exemple.
Un autre mot. Je regrette vraiment. Qu'est-ce que vous regrettez vraiment? Vous dites pas, oh là là, ça j'aurais pas dû le faire.
Ouais, je regrette de ne pas avoir été peut-être plus assidu à l'école, on va dire. Allez, allez.
Oui, ça a servi à ce que vous êtes aujourd'hui.
Oui, ça a servi à ce que je suis aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait pas mal de bêtises quand j'étais gamin, mais rien de très grave, hein, un truc de gamin, quoi, voilà. Mais sinon, c'est peut-être d'avoir. Parce que si j'avais été plus assidu à l'école, je pense que ma mère, ça lui aurait vraiment tapé sur les nerfs. Mais en fait, ma mère me dit aussi, bah oui, mais t'étais comme ça, et regarde maintenant où tu es. Donc,
Alors, quand Oscar vous pose la question imaginaire, mais qui n'est pas imaginaire, papa, c'est quoi la vie?
Julie,
il a 4 ans, mais il y a un moment donné, il va me le dire. Papa, c'est quoi?
Bah, je veux dire, c'est chouette, mon pote, la vie, c'est chouette. C'est chouette, mon fils. La vie, c'est des rencontres. C'est parce que c'est ce que je dis souvent, c'est que j'ai plein de copains aussi qui n'étaient pas. Il faut travailler à l'école. Attention, je ne dis pas qu'il faut pas travailler à l'école, mais je veux dire, il y a aussi ça la vie. C'est-à-dire que tu peux ne pas forcément être bon à l'école, mais il faut. Je vais faire un peu mon Vandame, mais il faut s'ouvrir aux gens. Il faut donner envie aux gens d'aller vers toi. Il faut être positif. Et un truc qui est très important, c'est que moi, j'ai arrêté l'école parce que j'étais passionné par quelque chose. Et je trouve que une des choses les plus importantes quand tu es enfant, c'est de te passionner pour quelque chose. Et à partir du moment où tu as une passion, ça veut dire que ça t'aide aussi à avancer dans tes devoirs ou dans ton école. Mais c'est très important d'arriver à passionner les enfants. Et j'espère que mon fils sera un enfant passionné et sera intéressé par des choses parce que je pense que c'est ce qui te permet d'avancer et des fois de rester dans le droit chemin, quoi. Je trouve.
Un dernier mot.
Seul dans la nuit.
Qui est-ce que vous pourriez appeler une nuit de cauchemar, une nuit où tout d'un coup ça va pas, vous avez des amis?
Ah, mon meilleur ami qui s'appelle Claude Viala, qui n'est pas du tout du métier, qui est quelqu'un que j'ai deux amis, enfin deux très bons, très 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 bons amis qui sont Virginie Bizet et Claude Viala, qui sont deux amis qui n'ont rien à voir à ce métier. Moi, mon pote, il était directeur de ressources humaines, voilà, il s'est occupé de reclassement aussi, vous savez, d'employés dans des boîtes de reclassement. Il n'est pas du tout là-dedans, mais d'ailleurs c'est un des mecs les plus gentils que je connaisse. Je ne suis entouré que de gens gentils. c'est le mec du monde de oui oui.
Ça compte tellement.
Et puis justement, je l'avais invité à l'émission de Drucker. Michel Drucker m'avait fait un petit vivement dimanche pour moi. Ça m'avait fait beaucoup plaisir. Ça m'avait énormément touché. Je l'avais invité. J'avais dit que j'avais énormément de chance parce que j'avais un mec hyper bienveillant autour de moi. Et j'avais quelqu'un qui me, même alors que c'est mon meilleur pote, qui m'a toujours dit les choses avec beaucoup de classe, même quand il trouvait que c'était pas bien ce que je faisais. Mais il l'a toujours dit avec beaucoup de classe. Et comme c'est quelqu'un qui n'est pas du tout intéressé par le métier et qui ne voit que. Que mon intérêt personnel et que le bien pour moi, il se trompe très rarement et c'est mon frangin. D'ailleurs, je dis souvent que c'est mon frère parce qu'il est un mec très grand et tout. Les gens pensent que c'est mon frère, donc je ne contredis jamais ça d'ailleurs. Et voilà. Donc, je suis très bien entouré. Je peux appeler ma sœur la nuit, je peux appeler ma vraie sœur Mélanie Ducré, je peux appeler ma maman. Voilà. Mais on va dire quelqu'un qui n'est pas réellement de la famille par le sang, Claude est quelqu'un que je peux appeler et qui sera toujours, toujours, toujours là. Je le sais.
Je vois que l'émission est terminée.
Ouais.
Et ben moi, en tout cas, je vais vous dire un truc. J'ai passé un bon moment.
Bah merci, c'est gentil.
Je suis très content.
Merci beaucoup.
Je suis très content de vous connaître un tout petit peu mieux.
Merci, moi aussi.
Parce que déjà, vous me paraissiez sympa à l'antenne. Je me dis que c'est que la télé montre les bonnes choses.
Ah oui, bah, je ne sais pas, mais en tout cas, vous paraissiez sympa aussi, vous l'êtes. Donc c'est un plaisir d'avoir été avec vous. Merci beaucoup.
Tout ça est au présent, hein. C'est pas à l'imparfait. On est bien d'accord. Hein. Merci Arnaud Ducret.
Merci.
Samedi Sabatier sur MFM Radio.